Vous écoutez RTL.
Nous sommes le dimanche 15 avril. Il est exactement 8 heures.
RTL Matin avec Bernard Poirette et le journal de Yann Boucherie.
Yann, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
La Russie en échec au Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution condamnant les frappes en Syrie a été rejetée dans la nuit.
Pour autant, la diplomatie entre en jeu. Les objectifs ont été atteints selon les militaires français, alors que sur place, les opposants au régime de Damas restent sur leur faim. La Syrie, mais aussi la situation intérieure, avec notamment le conflit à la SNCF, le président Emmanuel Macron est attendu sur de nombreux dossiers chauds ce soir, lors de son interview à la télévision. Nombreux débordements d'ailleurs hier lors de manifestations contre sa politique. Un rassemblement en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes a dégénéré dans le centre de Nantes. Dégradation également à Montpellier. Et puis les sports et le football. Le PSG touche du doigt son 7e titre de champion de France. Paris accueille Monaco ce soir au Parc des Princes.
La Russie a eu beau monter au créneau diplomatique auprès de ses partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, et bien seule la Chine et la Bolivie ont approuvé sa condamnation des frappes en Syrie.
Oui, sa résolution a été rejetée alors que selon Moscou, l'intervention des États-Unis et de ses alliés bafoue le droit international. Comment sortir de cette situation de blocage par la diplomatie après les armes? Isabelle Dat, le chef de l'État français, va désormais s'y employer.
Emmanuel Macron n'avait guère laissé planer de doutes sur son intention de réagir militairement après l'attaque qui correspondait aux lignes rouges qu'il avait fixées, à savoir une attaque chimique. Mais il a également toujours dit que s'il se lançait dans une opération militaire, elle devait s'inscrire dans une feuille de route diplomatique. Or, pour le moment, Moscou et Téhéran sont à la manœuvre, sans succès d'ailleurs. Le président veut profiter de ses contacts avec tous les pays concernés, dont la Russie, la Turquie et l'Iran, pour les rassembler dans une dynamique permettant de trouver une solution politique. Il l'a redit hier, la Syrie doit retrouver la paix et la région sa stabilité. Je poursuivrai ces priorités avec détermination dans les jours et les semaines à venir. Emmanuel Macron a rendez-vous avec Donald Trump dans 8 jours, puis avec Vladimir Poutine au mois de mai. Il y a urgence à dialoguer, à formuler une initiative de paix crédible. On en connaît à peu près les paramètres, mais pas encore le rythme. Tout dépendra de la bonne volonté des acteurs.
Isabelle Dat, des premiers jalons ont d'ailleurs été posés cette nuit, puisque la France, mais aussi les États-Unis et le Royaume-Uni ont remis à leurs partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution sur la Syrie avec plusieurs volets scientifiques, humanitaires et politiques, incluant notamment la création d'un nouveau mécanisme d'enquête sur l'emploi des armes chimiques.
Ce matin, dans Le Parisien dimanche, la ministre française des Armées justifie la légalité de l'intervention militaire de la coalition.
Florence Parly constate de la part de la Syrie une violation de la Convention sur l'interdiction de ces armes chimiques et de plusieurs résolutions de l'ONU. L'appel à la force était donc légitime, selon elle, et les objectifs assignés aux militaires français ont été atteints. Le général Lecointre, chef d'état-major des armées, au micro RTL de Pierre Julien.
L'opération a été en effet exclusivement concentrée sur la capacité d'armes chimiques du régime syrien. Et les deux sites qui ont été atteints près de Homs sont des sites de stockage et d'assemblage d'armes chimiques. Ces cibles ont été atteintes et frappées sans risque d'erreur et sans dégâts collatéraux, qui est la preuve de la très grande rigueur du processus de ciblage national. Par ailleurs, les frappes ont été conduites de nuit, de façon à éviter la moindre présence de civils à proximité, avec des éléments de renseignement qui permettaient de vérifier jusqu'au dernier moment cette absence de risque de dommages collatéraux pour des populations civiles qui auraient été à proximité. Je tiens à relever également la coordination des actions qui a permis que l'ensemble des cibles soient frappées à partir de plateformes qui étaient très éloignées les unes des autres, à quelques dizaines de minutes au total d'intervalle.
Le général Lecointre, chef d'état-major des armées. Un débat sans vote aura lieu demain à l'Assemblée nationale et au Sénat sur cette intervention en Syrie. Édouard Philippe, le Premier ministre, recevra à ce titre en fin de matinée aujourd'hui les présidents des deux assemblées.
Il faut dire que la participation française à cette intervention en Syrie divise en profondeur la classe politique.
Jean-Luc Mélenchon a regretté hier l'envoi des forces tricolores en l'absence de mandat de l'ONU. Marine Le Pen a estimé qu'Emmanuel Macron et Donald Trump jouaient aux apprentis sorciers. Ce matin, Laurent Wauquiez se montre montre lui aussi plutôt critique dans le journal du dimanche. Il soutient par principe l'armée française au combat et estime que le président syrien devra répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale. Mais le président des Républicains ne croit pas à l'utilité de frappes punitives. La priorité du chef de l'État doit être de lutter contre les islamistes, précise Laurent Wauquiez. Les opposants syriens au régime de Bachar al-Assad attendaient depuis longtemps l'intervention d'hier. Gauthier Delon-Bugard a joint pour RTL Wael Alafez. Il est exilé en France et porte-parole du mouvement populaire pour le changement en Syrie.
Elle attendait d'une attaque vraiment plus grande que ça. Les résultats, c'est vraiment négatif. Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire, la guerre continue. Pour le reste, Assad, il est libre. Il va réutiliser d'autres armes. C'est pas grave, on va regarder et tout. Mais c'est vraiment une grande déception. On attendait à beaucoup plus. Des actions plus sérieuses que ça. L'avenir, bon, la révolution continue. Les rebelles, les vrais, ils sont toujours là. Nous, on appelle à la Syrie propre. Nous, on veut un pays démocratique. On est prêt à négocier pour un plan de paix, mais avec les Nations Unies. Sans les terroristes, Assad, c'est un criminel contre l'humanité. On n'accepte pas qu'elle reste.
Wael Alafez, le porte-parole du mouvement populaire pour le changement en Syrie, est opposé au régime. Ayman Soussan pourra lui répondre dans un gros quart d'heure. On vous le rappelle, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères sera l'invité d'RTL.
À la différence de Donald Trump et Theresa May, Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé publiquement après les frappes en Syrie.
Oui, l'Élysée a publié un communiqué, mais le président de la République a choisi de ne pas parler jusqu'à son interview télévisée de ce soir chez nos confrères de BFM TV. Le chef de l'État évoquera la participation française à l'intervention de la coalition, mais beaucoup d'autres dossiers d'actualité devraient être abordés, Marie-Bénédicte Allaire.
Il est attendu sur plusieurs autres sujets très polémiques, comme ses propos devant les évêques sur la nécessité de réparer le lien entre l'Église et l'État. Ils ont braqué plus d'un défenseur de la laïcité. Et puis il devrait aussi tenter de convaincre sur la loi Asile et Immigration qui arrive demain à l'Assemblée. Elle suscite des réserves au sein même de sa majorité. Enfin, Emmanuel Macron sera sans doute appelé à préciser ses déclarations sur la SNCF et en particulier la reprise de la dette. Il n'a pas convaincu les syndicats jusqu'alors. Et puis, que pense-t-il du livre de François Hollande ? Il a été l'un des premiers destinataires de ces leçons du pouvoir. Son prédécesseur ne l'épargne pas. On attend de savoir sur quel ton il choisira de lui répondre.
Marie-Bénédicte Allaire. Selon un dernier sondage IFOP pour le JDD, 54% des Français estiment que la grève à la SNCF n'est pas justifiée, en baisse de 4 points. 61% des sondés souhaitent que le gouvernement aille au bout de la réforme. Des chiffres que pourra bien sûr commenter Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI entre 12h et 13h.
Les opposants à la politique de M. Macron ont donné de la voix hier et certains ont même eu recours à la violence.
Oui, des rassemblements ont eu lieu à Marseille, Lille mais aussi Montpellier où 2000 personnes ont défilé dans un cortège pour la convergence des luttes. Des débordements ont eu lieu dans le centre-ville avec des commerces et des banques attaquées. La police a procédé à 51 interpellations. Autres exactions, cette fois dans le centre de Nantes où une manifestation de soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes a dégénéré. 6 700 personnes s'étaient rassemblées, mais des casseurs ont voulu en découdre, Nicolas Bobby.
Des vitrines de boutiques de mode, des portes de banque, des bannettes publicitaires ont de nouveau été cassées.
Le mec, il n'est même pas de la ZAD, il fout une caillasse, j'ai bien vu à sa tête. J'ai une nantée de la ZAD, il se tire.
Casqués, masqués, vêtus de noir, équipés de marteaux, les casseurs se changent rapidement, accroupis, cachés par des individus formant un cercle. Ce qui énerve ce nantais.
Mon père, il m'a vu faire ça, il m'a dit, t'es un minable.
Des pavés volent en direction des CRS qui répliquent au canon à eau et avec des gaz lacrymogènes.
Moi, à la base, j'étais dans le cortège avec les étudiants, avec les cheminots, etc. Ah, ça pique un peu, ouais, ça pique un peu. C'est un peu douloureux, ouais.
On se protège avec du sérum spécial du coup pour essayer de... Oh putain, excusez-moi mais...
Venus affronter les forces de l'ordre, des jeunes courent derrière les fourgons de la compagnie d'intervention, cognent fortement sur les vitres, il n'y avait que les chauffeurs à bord.
Le reportage de Nicolas Bobby, 6 manifestants ont été interpellés et un policier a été blessé. Un pique-nique de soutien aux occupants illégaux de Notre-Dame-des-Landes est prévu ce dimanche à la mi-journée.
On marque une courte pause dans le journal de Yann Boucherie. Ensuite, on passe à la page des sports. Le compte à rebours est bel et bien lancé avant le 7e titre de champion de France de football qui va tomber dans l'escarcelle du Paris Saint-Germain au plus tôt ce soir, mais pas forcément ce soir.
RTL Matin, il est 8h10. La page des sports dans votre journal, Yann Boucherie et Bernard Poiret.
Le football donc, Yann, le PSG pourrait éventuellement être sacré champion de France ce soir s'il bat Monaco en clôture de la 33e journée de Ligue 1.
Oui, en attendant, Lyon l'a emporté hier facilement sur Amiens 3-0 et reprend provisoirement 3 points d'avance sur l'OM. Victoire de Metz à Rennes 2-1 et de Saint-Etienne à Strasbourg 1-0. Un but partout entre Dijon et Nantes, 2-2 entre Lille et Guingamp avec les deux buts bretons dans le temps additionnel quand Toulouse a été reporté en raison des intempéries. Au menu aujourd'hui, donc Montpellier-Bordeaux à 15h, 3 Marseille à 17h et enfin le choc PSG-Monaco à 21h. Les deux clubs, comme l'an passé, occupent, on le sait, les deux premières places de la Ligue 1. Mais cette fois, l'ordre ne sera pas le même, Philippe Sanforge.
Oui, sorte de passage de témoin symbolique entre les champions 2017 et 2018. La vitrine de notre championnat pour le directeur général de la Ligue, Didier Quillot.
Ça va peut-être être la revanche de la finale de la Coupe de la Ligue. Je ne sais pas, qui était aussi un très beau match. PSG-Monaco, c'est clairement une grande affiche.
Si le trophée Hexagone ne sera de toute façon pas remis ce soir en cas de victoire, Paris et son entraîneur en partance, Unai Emery, veulent entériner sans attendre ce 7e titre de champion.
Que tous les supporters qui sont avec nous voient une équipe pour marquer plus de buts, que tu peux gagner maintenant, et c'est l'objectif.
En face, l'AS Monaco de Jardim, plus que gâcher la fête, aimerait surtout stopper cette série de 3 défaites consécutives cette saison face au PSG.
Cette année, nous n'est pas arrivé au niveau d'équilibrer un match avec Paris. Au contraire des autres années, ils nous attendent cette dernière opportunité pour arriver à ce niveau-là.
Malheureux en Coupe d'Europe, Paris entend une nouvelle fois se consoler en faisant main basse sur l'ensemble des trophées nationaux pour la 3e fois en 4 saisons.
Et Philippe Sanfourche, PSG-Monaco, duel pour le titre à vivre évidemment sur RTL dans un soir de Ligue 1 exceptionnel présenté par Sylvain Charlet. Un mot de Ligue 2. Reims, le leader, l'a emporté sans souci 3-0 hier au Paris FC. En rugby, Toulon a dominé Montpellier hier 32-17 et repris provisoirement la 3e place. Victoire de Clermont sur Bordeaux-Bègles 33-3. D'Oyonnax face à Brive 40-17. De Lyon devant le Stade français 44-3. Et d'Agen à Pau 33-22. À suivre aujourd'hui La Rochelle Castres à 12h30 et Toulouse Racing à 16h50. Enfin, la Formule 1. Sébastien Vettel en pole position du Grand Prix de Formule 1 de Chine sur le circuit de Shanghai. Ça part dans quelques secondes.
Absolument. Et on va vous faire suivre ça en fil rouge et en bref. Merci beaucoup, Yann Boucherie. Vous revenez tout à l'heure à 10h pour votre prochain journal.
Vous écoutez RTL.